세상.
35% de ce que nous mangeons dépend de la pollinisation par les insectes. Mais sixième crise d'extinction des espèces. Oh là 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 là.
Salut Charline.
Voilà Guillaume, Clara. Bon, c'est bon, vous avez votre badge là?
Oui, hein, moi j'ai pris mon badge VIP.
Ouais, moi j'ai celui de la cantine pour manger des courgettes aux pesticides.
Ah non, le badge en forme de coquelicot là pour soutenir l'appel contre les pesticides lancé par Fabrice Nicolino.
Qui ça?
Fabrice Nicolino, mais c'est notre invité, je vous signale. Il est journaliste à La Croix et à Charlie Hebdo.
Ah bah bonjour la cohérence.
Spécialisé dans l'écologie.
Ah bah bonjour la galère.
Et son manifeste s'appelle Nous voulons des coquelicots. Ah.
C'est le manifeste pour la fin du monde.
Bah, tu ferais bien de prendre au sérieux cet appel, je te signale qu'on va tous crever, d'accord?
La mort ne surprend pas le sage, il est toujours prêt à partir, c'est du Jean de La Fontaine, mais ça me correspond tout à fait.
Bah, c'est ce que disait Johnny aussi. Hein. Et la canicule en France, en plein mois de septembre, ça te choque pas, j'imagine?
Oh bah, moi j'aime bien parce que ça entretient mon bronzage, princesse Meghan.
C'est la guerre, Clara, là, c'est la guerre, là.
Mais oui, mais c'est vrai, là, Clara, si les insectes ils disparaissent, qui pollinisera pour nous?
Oh bah, chez nous, à Marianne, il y a bien quelqu'un qui pollinise, ça, je peux vous le garantir.
Bah, Natacha Polony, voilà, c'est ça, à Marianne, c'est ça le premier signe de l'extinction de l'espèce.
Oh, mais enfin, je vous trouve bien alarmiste. Regardez, on a un nouveau ministre, un noble en plus. François de Rugy. Est-ce que ça ne rime pas avec écologie?
Oh là, bah oui, bah là on est sauvé alors. Ouais.
Il a même dit qu'il améliorerait la transparence des lobbies.
Ouais, c'est ça, puis moi je suis pour le cancer bienveillant, c'est ça?
Oh, Guillaume, si tu mangeais un tout petit peu plus de viande, peut-être que tu serais un tout petit peu moins triste. Et puis, t'es tout gris.
Charline.
Là.
Oui, Guillaume.
J'ai dépassé ma DGA de Clara Dupont-Mono.
T'as quoi?
Ma DGA, c'est ma dose journalière autorisée.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'émission qui make the rigolade great again. François de Rugy dévoile ses intentions dans sa première interview en tant que ministre de l'écologie. La révolution verte est en marche, il l'a dit, il va dialoguer. Trembler les lobbies.
Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature.
Une nourriture saine n'est pas à la portée des plus démunis. Une enquête du Secours Populaire montre qu'ils ne parviennent pas à consommer quotidiennement des fruits ou des légumes frais.
Mange bio le bobo. Et ton cancer aussi sera bio. Hein. Et pour la chimio, je conseille la coccinelle.
Pour vous sentir bien, faites un câlin à un arbre. Cette pratique est très répandue au Japon. Ça s'appelle la sylvothérapie. Et tiens, ce soir, une randonnée est organisée près d'Orléans pour se serrer contre un arbre. Alors c'est chouette, ça se passe comment?
Il y a des bêtes.
Ah bah oui, évidemment. Alex Vizorek se prépare pour sa première au théâtre ce soir dans Trois hommes et un couffin. Alors elle est là et elle rêve de jouer dans Trois troubadours sur un pont-levis. C'est Clara Dupont-Mono.
Bonjour Charline. Je remplace Vizorek aujourd'hui, donc je salue votre quête de qualité. Il est quand même temps de tirer cette émission vers le haut. Alors il dirait, je ne vous apprends pas, autour de cette table, une belle équipe.
C'est vrai.
Alors moi je dis, autour de cette table, une équipe bancale, un peu tâtonnante, mais néanmoins prometteuse. Ce qui est un peu disproportionné concernant Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour.
Qui avez-vous torturé de vos cravaches idéologiques aujourd'hui? Parce que c'est ça ce que vous faites, il faut quand même que ce soit dit.
Mais les gens s'en sont rendus compte, clairement, les gens ne sont pas idiots. Je suis allé à une grande réunion de conversion qui m'ont expliqué leur technique de vente, figurez-vous.
Pourquoi vouloir violer des clients, ça sert à rien.
C'est vrai,
c'est vrai.
Quand même un peu mal au cul, quand même.
Après vous, il y aura le plus prometteur des hommes, puisqu'il se trouve à mi-chemin entre Tarzan et Léon Blum, et moi j'appelle ça un champ de compétences, un vrai. Bonjour Hippolyte Girardot.
Mais bonjour Clara.
Vous nous parlez de quoi?
Eh bien on va parler de la crise des migrants et évidemment de Manuel Valls.
Et puis, enfin, alerte à la bombe, si je peux me permettre, celle qui a balayé toutes les déceptions la fois dernière, puisqu'elle s'est retrouvée seins nus, à ceux qui seraient échappés. Ça s'appelle un vrai champ esthétique, et ça s'appelle aussi Constance. Est-ce qu'on verra votre anus aujourd'hui, Constance?
Non, aujourd'hui, bon. Je ne montre pas mon anus ni mes seins, par contre, je vous parle de cacahuètes.
Ah, pas plus mal.
Par contre, Alex Vizorek, il fait dans l'ordre la présentation de l'équipe.
Et ben quoi, c'est Guillaume Meurice, Hippolyte Girardot, Constance.
C'est pas grave, on vous débriefera après.
Et voici celui qui espère voir des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Oh. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Eh ben, je suis Fabrice Nicolino.
Oui, oui, c'est lui.
Voilà.
C'est déjà pas mal.
Et vous voulez ajouter quelque chose?
Non, je rien. Je suis journaliste et je m'intéresse à l'écologie depuis si longtemps que j'ai un peu oublié, mais vraiment depuis très longtemps, genre 45 ans.
Quoi. Oh, Fabrice Nicolino. Chut,
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter.
Merci Fabrice Nicolino d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste, on l'a dit à la fois à La Croix, à Charlie Hebdo aussi. Et vous avez toujours votre blog Planète sans visa.
Planète sans visa, absolument. Ouais, bien que nous ayons subi une grosse attaque informatique ces derniers jours.
Ah bon? Bon, espérons qu'ils reviennent vite. Et en attendant, vous lancez un appel et un manifeste pour interdire les pesticides. Nous voulons des coquelicots, paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, c'est un manifeste dont le texte en lui-même est clair, net et assez court, mais cet ouvrage, c'est aussi 100 pages qui se lisent, moi j'ai trouvé, comme une enquête ou comme un récit un peu historique sur l'apparition des pesticides, leur généralisation, le jeu des lobbies, toutes les lâchetés politiques, tous ces jalons historiques qui mènent à tout ça et qu'aujourd'hui on est farci de poison. Alors ma première question, Fabrice Nicolino, moi le livre m'est tombé des mains quand j'ai découvert la réponse, mais je vais vous le laisser le dire. Quand est-ce qu'on a commencé à savoir qui a lancé la première alerte? Est-ce que c'était récent?
C'est vrai que c'est une grande question. C'est-à-dire, très, très grossièrement, quand les premiers pesticides de synthèse ont apparu, on va dire, au milieu de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, notamment le DDT, hein, c'était miraculeux. C'est très important de le dire, parce que sinon on comprend rien à l'histoire. Si on pense que tous ces gens-là, depuis le début, sont des ruffians, évidemment, on a du mal à comprendre ce qui a pu se passer. En fait, le DDT et d'autres produits de synthèse qui ont été imaginés dans les laboratoires, notamment américains et sur fond de guerre, c'était des miracles. Parce que le DDT, par exemple, pour ne citer que lui, a sauvé de la mort des gens rescapés des camps de la mort nazie. Primo Levi, le grand Primo Levi, pour ceux qui le connaissent, et même pour ceux qui ne le connaissent pas, a été sauvé in extremis par du DDT alors qu'il était rescapé d'Auschwitz. Donc c'était un miracle, et puis ça a duré, ce temps de relative bonne foi a duré une bonne quinzaine d'années, et puis surgit brusquement une femme absolument exceptionnelle à mes yeux, qui s'appelle Rachel Carson, c'est une Américaine, c'est une scientifique. Elle a fait une très longue enquête scientifique en revue.
En quelle année, c'est ça?
C'était en 1962.
Eh ben voilà, depuis 62, on sait.
Ça s'appelait Printemps silencieux, parce que c'est le printemps quand les oiseaux ne chantent plus, donc il est devenu silencieux. Rachel Carson balance tout, pour dire les choses nettement. Et en plus, elle est soutenue par des très grands scientifiques de son époque. On est en 1962, et là, tout bascule. On bascule, tous les lobbies industriels, à commencer par Monsanto, qui maltraite Rachel Carson d'une manière stupéfiante.
Là, font passer pour folle, hein, grosso modo.
Plein de choses. On dit qu'elle est hystérique parce que c'est une femme. On dit qu'elle est lesbienne parce qu'elle est célibataire. Et puis, on dit, à l'arrivée, parce qu'elle ne peut être qu'une ennemie des États-Unis et du progrès, on la traite d'agent du KGB, la police politique de l'Union soviétique stalinienne. Donc, on met les bouchées doubles, et y compris en France. Parce que le lobby des pesticides s'est enraciné en France de la même manière que outre-Atlantique aux États-Unis. Et donc, à partir du moment où Rachel Carson dit la vérité, car elle dit la vérité sur la toxicité et la grande dangerosité des pesticides, alors il faut la battre. Pas seulement elle, mais tous ceux qui disent la vérité. Et là, le lobby des pesticides en France et partout ailleurs, d'ailleurs, commence une autre époque de désinformation,
et
de mensonges volontaires.
Elle sera criminelle. Et on a un dernier exemple ce week-end avec la mort de Fabien Tomasi, symbole de la lutte contre le glyphosate en Argentine, qui a succombé ce week-end. Il avait 53 ans. Lui, il a passé sa vie à manipuler des bidons de pesticides. Il remplissait les réservoirs des avions qui pulvérisaient les champs de glyphosate.
Si vous voulez, c'est vraiment une tragédie planétaire. Vous avez tout à fait raison. Sachez tout de même qu'on fait débarquer des millions de tonnes de soja transgénique dans des ports comme Lorient ou Brest chaque année. Des millions de tonnes pour nourrir un bétail que plus personne ne veut manger parce que la qualité de la viande est vraiment lamentable. Il faut bien le dire, il faut dire les choses comme elles sont. Donc on cultive maintenant du soja transgénique sur des millions d'hectares dans le nord de l'Argentine, au Paraguay ou dans le sud du Brésil. Donc comme les autorités publiques, il faut le dire aussi nettement, elles sont vraiment payées par des pots de vin. Elles permettent des choses qui seraient impossibles en Europe. On épand par avion des quantités phénoménales de glyphosate, de Roundup, Monsanto, sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'hectares. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a des communautés paysannes anciennes, des Indiens, des gens dont personne n'a rien à foutre. Et le résultat est tragique. Bien sûr que c'est tragique. On est en pleine tragédie.
Et vous, donc, vous lancez cet appel, hein, et avez publié ce manifeste « Nous voulons des coquelicots », édition Les Liens qui libèrent, un appel publié dans Charlie Hebdo, avec l'évêque de Troyes qui signe, et là c'est la première fois qu'un ecclésiastique signe un texte publié dans Charlie, donc ça veut dire que là il se passe quelque chose.
Mais je l'espère, hein. Moi je suis allé démarcher personnellement Monseigneur Marc Stinger à la maison des évêques à Mille-Breteuil à Paris. j'étais un petit peu préoccupé, je vous l'avoue, de lui annoncer que ça allait être publié par Charlie.
Mais vous avez dit, je suis aussi journaliste à La Croix, et c'est pas ça.
Je ne suis plus chroniqueur à La Croix depuis quelques temps, mais enfin, j'ai travaillé 10 ans. Oui. En effet, j'étais chroniqueur 10 ans à La Croix. Mais en tout cas, Marc Stinger a rigolé, ce qui était quand même bon signe pour une maison de l'audit, pour un évêque. Il a dit, Charlie, eh bien, tant mieux, c'est formidable. Et il s'est mis à se marrer, et puis il a accepté, et donc j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et c'est le signe, en effet, que l'émotion est très profonde, que l'inquiétude est absolument partout désormais. Presque tout le monde sait désormais que les pesticides sont partout, dans l'eau de pluie, dans la rosée du matin, dans les sols, dans les aliments, absolument partout, et qu'ils provoquent des vrais désastres, notamment en France. En France, la disparition des oiseaux, la disparition des abeilles, et ça rend malade plein de gens. Il y a un autre signataire, je vous le signale parce que c'est important, qui est le président de l'association France Parkinson. France Parkinson, c'est une association assez discrète, on va dire, pour ne pas dire institutionnel, mais le président de France Parkinson, Didier Robiliard, a décidé de signer cet appel car, on le sait de plus en plus, il faut le redire, les pesticides contribuent très fortement à l'apparition ou à l'aggravation de maladies comme Parkinson. Mm-hmm. C'est très grave hein, quand même. Je veux dire, on n'est pas en face d'une petite rigolade, même si j'aime bien rigoler.
Eh bien, donc interdisons les pesticides, arborons ce pins, ce badge.
Ouais. Hein, je signale juste qu'il y a, donc la grande campagne commence demain sur nousvoulonsdescoquelicots.fr ou .org. Mm-hmm. Donc demain, on peut signer l'appel à cette adresse. On peut acheter les coquelicots, les arborer. Et je donne rendez-vous, si vous me permettez, le 5 octobre, le vendredi 5 octobre à 18h30 à tous les signataires sur toutes les places des villes et des villages où chacun habite. On va se retrouver, on va se compter avec les coquelicots. On va s'embrasser aussi et on va lancer des actions partout en France.
Fabrice Nicolino, vous êtes entendu. Vous publiez avec François Veillerette. Nous voulons des coquelicots, édition Les liens qui libèrent. Et Mousti sur France Inter. Notre invité, c'est Fabrice Nicolino, journaliste, essayiste, notamment à Charlie Hebdo, qui demain publie un appel pour l'interdiction des pesticides. Fabrice Nicolino est entouré de qui, Clara Dupont-Mono?
Harlem Désir, Bruce Willis et Pamela Anderson, on est
cool. Ouais, c'est-à-dire
alors, Guillaume Meurice, Hippolyte Girardot et Constance.
Je choisis Bruce Willis, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Fabrice Nicolino, place à l'information, monsieur.
Évidemment.
Objectif.
Il y avait un choix entre quatre personnalités, vous me pardonnerez de ne pas être une dame.
Le journal de presque 17h17.
Le mot en lui-même les perturbe énormément. Vagin.
Et on commence avec les titres.
Oui, on l'a entendu dans le jingle. Richard Ferrand, futur président de l'Assemblée nationale, s'excuse de ne pas être une femme.
C'est vrai, parce que Ferrand, j'ai toujours pensé qu'il n'avait pas de couilles. Mais.
C'est vrai. Manuel Valls réaffirme sa volonté d'être candidat à la mairie de Barcelone. Celui qu'on appelle le petit prince de la loose est décidément bien courageux.
Alors, c'est marrant, parce que Valls, j'ai toujours pensé qu'il n'avait pas de
couilles. Oui, c'est ça. On a compris, Charline. Il y aura des brèves pour faire plaisir à Alex Vizorek, petit ange parti au théâtre trop tôt.
C'est marrant, parce qu'Alex, j'ai toujours pensé qu'il n'avait pas
de couilles. Ça va, Charline.
Non, mais ouais. Qu'il n'avait pas d'envie de faire du théâtre.
Ah, je pensais que c'était
le dire. Non, c'est pour ça. Et allez, on commence avec des nouvelles de Jean-Vincent Placé suite à ses dérapages ivre-mort dans un bar de nuit.
Oui, il a été condamné seulement à 3 mois de prison avec sursis. Il est libre, ça s'arrose.
En tout cas, il a dit que ça lui servirait de leçon et qu'il ne boirait plus.
Effectivement, c'est un jour à marquer d'une bière blanche.
D'une pierre blanche. Alcool toujours. Oui. Manuel Valls serait donc sur le point de se déclarer candidat à la mairie de Barcelone.
Oui, en même temps, entre être payé à rien foutre à Évry et payé à rien foutre à Barcelone, moi je ferais pareil en fait. Hein.
C'est pas vrai, c'est pas fou.
Payé à rien foutre, toujours, Richard Ferrand a donc déclaré qu'il était désolé de ne pas être une femme.
T'inquiète Richard, t'es pas une dame, c'est vrai, mais on sait tous que tu n'es qu'un pion.
Bisous. Politique encore, avec cette déclaration d'Édouard Philippe devant les députés La République En Marche, écoutez.
Souvent, moi, le matin, j'écoute France Inter. Oui, je sais. Parfois, ça cause des surprises.
Ah, ça cause pas des surprises, ça cause des moments de grâce. Bisous Léa. France Inter, toujours, on aime, on vous en parle. Olivier Besancenot s'est mis au rap.
Pouvoir non partagé, j'ai. Richesse non partagée, j'ai. 8 milliardaires au sommet, 3 milliards et demi se font spolier. Financé pas qu'à bouler, sponsor officiel de l'Elysée. Placé clos sur l'échiquier, dans les médias, beaucoup de chiquier.
C'est pas la grosse folie sur le plateau. Bon.
Il y a un député communiste qui a fait un slam là, qui est passé pour défendre les hôpitaux, qui est pas mal aussi.
Et c'est bien, on attend donc le clash avec Philippe Poutou.
Il y aura un bagarre à la fête de l'UMA devant le stand Saucisse et Fraternité.
Séisme politique à présent à l'Assemblée nationale. Tenez-vous bien, les socialistes changent de nom et redeviennent... Les socialistes. Putain la merde.
Il s'appelait Nouvelle Gauche et la bam, socialiste, des tarés.
Des tarés, c'est un véritable tremblement de terre.
On n'avait pas vu ça depuis la nomination d'Olivier Faure comme premier secrétaire.
Ça me fout les poils, regarde-moi ça.
On se calme.
On enchaîne.
Ouais, plus d'un Français sur quatre n'a pas assez d'argent pour manger des fruits et légumes frais.
Et c'est pour ça que le gouvernement leur met régulièrement une belle carotte.
Un rapport parlementaire propose de rendre l'armement de la police municipale obligatoire.
Oui, après les cadeaux aux chasseurs, les policiers municipaux. Donc c'est clair, le projet du gouvernement, armé, tous les gens bourrés.
Médias à présent. 12 ans après, TF1 relance « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ».
Oui, parce qu'apparemment, ils auraient oublié Francis Lalanne à l'intérieur.
Ah oui, bah laissez-le, il est bien.
Ah oui, on peut le laisser, d'accord. Théâtre à présent.
Les places pour aller voir Al Pacino s'élèvent à 950€.
950€, ça fait rêver Hippolyte. 950€ pour 2 heures, a priori, il travaille sur le biopic de Pénélope Fillon.
Et on termine avec des brèves. Son fils lui demande de la mayonnaise, elle le frappe avec un câble électrique.
Oui, alors on peut critiquer la mère, bien sûr, mais à un moment donné dans ce pays, est-ce qu'on veut, oui ou non, lutter contre la malbouffe? Ouais, ça, faut être pragmatique.
Et on termine par des nouvelles de la personne qui a stoppé l'attaque au couteau quai de l'Ourcq alors qu'il jouait à la pétanque. On l'écoute, c'était sur France Info.
Quand je l'ai vu, moi, j'ai pris mes boules directement, j'ai couru vers lui.
Voilà, j'ai pris mes boules et j'ai couru vers lui. Fin
c'est
de
marrant
citation.
Parce que j'ai toujours pensé qu'il n'avait pas
Non, Charline, allez.
Merci Guillaume Meurice. Retour avec Fabrice Nicolino, journaliste.
Qui est resté malgré tout ça.
Oui, Charlie Hebdo, qui est toujours là. Les pages environnement à Charlie, c'est historique. C'est vrai, Charlie est connu pour ses pages.
Ça a été un journal, personne ne s'en souvient, sauf les très très vieux, mais ouais. Charlie 1970, c'est un journal profondément écologiste avec Reiser, Cabu, notre cher disparu, si j'ose dire, et puis Cavana et Fournier et tant d'autres. C'est un journal écologiste. Il a accompagné la première vague écologiste en France dans les années 70.
Comme François de Rugy, qui a accordé sa première interview en tant que nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire. Si, voici un extrait de cet entretien de François de Rugy paru dans Le Monde.
Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. Je vous assure, c'est vrai. Tiens, si je vous disais qu'il n'y a rien que j'adorais plus que les longues chevauchées solitaires dans les grands espaces verts. La communion intime avec la nature, l'extase des sens, un sentiment grisant de liberté. L'osmose, quoi.
Starring François de Rugy, la classe américaine. Fabrice Nicolino, est-ce que vous avez lu cette interview de François de Rugy, cette première interview au Monde? Est-ce que vous la trouvez consistante? Est-ce que vous êtes rassuré, quoi, en gros?
Je ne sais pas quoi vous dire. D'origine, je le connais depuis un petit paquet d'années. C'est un politicien finalement médiocre. C'est un homme qui fait carrière, qui il ferait carrière ailleurs que dans l'écologie. Personne ne se rendrait compte de la différence. C'est pas
PTT,
trop son souci.
Par exemple, ça
comment
au PTT, ça marche.
Oui, non, mais c'est-à-dire, il a déjà fait des déclarations antérieures sur les lobbies. Si vous voulez, il en est au stade où il défend l'idée des lobbies. Il a même pas été capable, en tant que ministre de l'écologie, de comprendre qu'il y a une différence sensible entre des gens qui défendent des intérêts particuliers et des intérêts particuliers comme tous ces lobbies de la chatte ou des pesticides ou du nucléaire ou que sais-je, et puis ceux qui défendent des intérêts généraux et à long terme. Il a même pas été foutu de comprendre qu'il y a une différence de nature entre ces deux formes d'action. Donc il met tout le monde sur le même terrain, des gens qui ont un milliard à consacrer à des informations, des gens qui ont 10 centimes quand ils ont la chance d'avoir 10 centimes. C'est simplement grotesque. C'est un homme qui ne fera rien, et qui ne pensera du début jusqu'à la fin, car sa carrière politique.
Il va dialoguer.
Ceux qui croient autrement, je leur donne rendez-vous d'ici un an ou peut-être deux.
Concernant l'interdiction du glyphosate sur les 3 ans, là, qui n'a finalement pas été inscrit dans la loi, il dit, je cite, « J'étais au perchoir, je ne pouvais pas intervenir. Je l'ai dit à l'époque, je ne le renie absolument pas. » Voilà, je vous vois froncer les sourcils.
Je connais trop ces combines-là, c'est de la mise en scène, c'est du théâtre, du mauvais, très mauvais théâtre. En vérité, il suit ce qu'on lui demande de faire. Ils ont habillé un recul extraordinaire sur le glyphosate. On explique d'ailleurs demain dans Charlie, c'est pas de la pub, c'est vraiment, on explique quelque chose de très important, c'est-à-dire comment le directeur de l'ANSES, l'ANSES c'est l'agence qui est censée nous protéger, figurez-vous. Et bien le directeur de l'ANSES, vous verrez que ce directeur de l'ANSES, Roger Genest, dont Charlie demande la démission, il se comporte comme un militant pro-pesticide et en fait, dans notre dos, il défend les glyphosates et il essaye de faire en sorte qu'on renonce à cette idée d'interdire le glyphosate sous 3 ans. On en reparlera, figurez-vous, on en reparlera, parce qu'en vérité, tout ça est simplement de la mise en scène. Il n'y aura pas d'interdiction du glyphosate sous 3 ans, c'est pas vrai.
Fabrice Nicolino, avant de passer à la chronique d'Hippolyte Girardot, cette petite question, vous auriez nommé qui comme ministre de l'écologie ?
Personne, parce que le cadre n'est pas bon. Parce que le cadre n'est pas bon. Le cadre de la politique de Monsieur Macron, c'est une politique pro-business. Il s'agit de continuer à détruire. C'est une machine, fondamentalement, la machine industrielle, dans les conditions d'aujourd'hui, détruit les équilibres naturels, les écosystèmes et la santé des gens. Donc le cadre est mauvais. Il faut sortir de ce cadre.
C'est un ministère en trompe-l'œil, quoi. Donc ça.
Bien sûr, c'est une farce. Juste un exemple. Exemple. Si on commençait à parler sérieusement d'écologie en France, il faudrait s'attaquer à des choses concrètes, comme l'omniprésence de la bagnole, comme le fait que bientôt 50% des voitures neuves en France sont des SUV. Les SUV, c'est pratiquement des 4x4 qui consomment énormément plus d'essence, qui consomment énormément plus de matière à construire. Donc, dans le même temps qu'on prétend lutter contre le dérèglement climatique, on pousse en avant les SUV, les SUV qui vont aggraver la crise climatique. On relance extraordinaire. On lance plutôt la folie de la voiture autonome. On essaye de relancer la machine industrielle autour de l'automobile en vantant les mérites de l'automobile sans conducteur, donc dite autonome. Et donc, ça veut dire on se fout complètement de l'avenir des hommes et de l'avenir climatique de la planète. On s'en fout, c'est ça la réalité. Bon, donc, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, laissez tomber.
Avant de tous crever, lisons quand même Nous voulons des coquelicots, l'édition Les liens qui libèrent. Bah, bien sûr, on entend bien
le colère. C'est comme les migrants, qu'on n'en peut plus de la crise des migrants.
Bah oui, évidemment.
Bah ouais, non, mais on sent. J'ai avalé trop de glyphosate ce matin. On sent que les Aquarius vont se multiplier, que leurs SOS vont être de plus en plus inaudibles. On dira, ouais, un bateau de 450 migrants en perdition, mais de quoi ils se plaignent? Moi aussi, je ferais bien une croisière en Méditerranée, tiens. Des migrants, fais-moi rigoler, des migrants. C'est juste une activité en option du Club Med, moi je te le dis, ouais. C'est un humour noir, malodorant, mais assez proche du réel. En Pologne, et c'est pas si loin la Pologne, comme disait Hitler, ils vont lancer un jeu de télé-réalité mettant en scène des migrants. Pas des migrants, hein. Eh, les gars, on fait de la télé-réalité, pas de la réalité télévisée du calme. Non, ce sont de faux migrants qui doivent faire le chemin inverse de ceux des vrais migrants. Ils partiront donc de Pologne pour traverser l'Allemagne, la Hongrie, la Serbie et la Grèce avant d'embarquer sur un bateau pour traverser la Méditerranée. Destination finale, le Kurdistan irakien, où l'émission se clôturera dans un camp de migrants. Et là, grosse fête et fraternisation. Et le lendemain, bien sûr, retour en Pologne, en avion, des faux migrants de l'émission de télé-réalité, mais pas des vrais migrants de la réalité qui, eux, évidemment, n'entreront pas en Pologne. Parce que la Pologne, comme la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, ont formé le groupe Visegrad, qui refuse catégoriquement d'ouvrir ses frontières et qui ont fermé la route des Balkans et refusent de participer aux différentes réunions sur la question au sein de l'Union européenne. Comme ça, c'est clair. Bref, moi, je ne sais pas trop quoi penser de ça, franchement. Parce que les types qui font l'émission, ils disent qu'ils la font pour changer le regard qu'on peut avoir sur les migrants. Moi, je me demande, parce qu'on imagine la conversation à un mi-chemin entre les faux migrants et les vrais. Le mec qui arrive, à la Syrie, c'est par là? Oui, c'est par là, mais retourne dans l'autre sens, mec, faut pas y aller. Désolé, mais faut que j'aille en Syrie, moi. Mais t'es ma boule, il y a la guerre là-bas. Pas du tout. Moi, je suis payé pour y aller. Oui, alors, on sent bien le regard sur les migrants qui pourrait changer, non? C'est pas ça? Bref, ce petit jeu, retourne d'où tu viens, on est à sa troisième saison en Australie, où la question migratoire est aussi explosive, sinon plus violente qu'en Europe. Étonnant d'ailleurs qu'il y ait des gens qui veulent aller en Australie, mais c'est qu'ils n'ont pas le choix, je pense. Bref, ce jeu avait un parcours évidemment différent. D'abord, petite traversée de la mer de Timor, connue pour ses pirates surarmés. Petit snack en Malaisie quand on arrive dans un camp de réfugiés. Transfert au Kenya dans un autre camp de réfugiés pour changer d'alimentation. Avant de traverser la zone de guerre du Congo pour terminer dans celle de l'Irak. Et dans la saison 2, ils sont passés en Syrie maladroitement et se sont fait tirer dessus. Il y avait des types qui ignoraient qu'il s'agissait d'une émission de télé-réalité, les cons. Bref, le jeu australien Go Back to Where You Came From avait pour objet de mettre en situation réelle des personnes ayant des opinions radicalement différentes sur la question migratoire. Genre, comme si en France, on faisait une équipe avec, disons, d'un côté Marine Le Pen et puis de l'autre, je sais pas trop qui, en fait, à dire vrai. C'est ça le problème. À force de faire ces téléréalités à la con, on sait plus trop où on en est du réel. D'ailleurs, il suffit de voir ce migrant à l'envers qui touche son salaire de député français pour faire campagne à Barcelone. Notre ancien premier ministre, quand même, monsieur Manuel Valls. Alors, en ce jour de la fête nationale de Catalogne, on peut aussi lui dire « Go back to where you came from, Manuel ».
Hippolyte Girardot. Merci, Hippolyte.
De rien.
À venir, Constance, Fabrice Nicolino est en notre compagnie et Clara va être contente, c'est Feu Chatterton, Ginger.
Quel est ce parfum que le vent dépêche? On dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville, je t'attends. Prends ma main, cesse donc de jouer là-dessous. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en. Mon cœur est un pendule. Mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre. Mon cœur, sous le ciel noir de sang. Oh, Ginger, la montagne vacille. Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin cours, allez, vas-y. On dirait que l'enfer entier est à notre route. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là, quelque part, non, ne te retourne pas. Rien, vite, suis-moi, mon cœur. Les chiens sont à nos talons, mais la jetée n'est plus loin. Oh, Ginger, le sol se nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. L'espoir nous fait un signe. Oh Ginger, nous serons loin d'ici. Dans une heure, si tu le veux, sauve-toi. Allez, vas-y.
Par
Jupiter, vous êtes sur France Inter et c'est Fabrice Nicolino qui nous accompagne jusqu'à 18h. Il publie avec François Veillerette aux éditions Les Liens qui libèrent Nous voulons des coquelicots. Ça sort demain, si je ne m'abuse.
Absolument.
Comme Charlie qui sera publié
Absolument.
Demain. Avec l'appel qui va avec. Nous voulons des coquelicots stop pesticides. Nous arborons tous dans ce studio le petit coquelicot qu'on peut, on peut se procurer en, en signant la pétition sur
Exactement.
Nous voulons des coquelicots.org. .org, bien sûr. Il a son coquelicot.
Oui, c'est moi.
Guillaume Meurice.
Je vais vous parler des jeunes aujourd'hui, parce qu'on les entend chouiner toute la journée. Ouais, Parcoursup, c'est de la merde, on va rater notre vie, on va tous finir dans le cinéma français. Non, les jeunes, être Hippolyte Girardot n'est pas une fatalité, je tiens à le dire aujourd'hui. Il faut penser gagne, il faut penser la win-attitude. Nous, on sait ce que c'est, on est l'équipe de la gagne ici, putain, une baisse d'audience. Bam, Constance, elle montre ses miches, bim, tous ensemble, on grimpe dans les audiences. Imaginons que Clara, sa patronne, à Marianne, ça devienne une réa qui ferait passer Finkielkraut pour un joueur de djembé. Bam, on est là, on soutient. C'est la gagne. Je veux voir la gagne dans vos yeux, Clara. C'est bien. D'ailleurs, les jeunes qui nous écoutent, ce matin, à la cité universitaire, on avait organisé pour vous un grand forum de commerciaux. Ça, commercial, ça, c'est le métier de la gagne. Et il y avait les putains de mecs qui m'ont donné les meilleures recettes de Win Attitude.
Si vous restez chez vous et vous attendez que les affaires viennent à vous, vous n'allez pas gagner énormément d'argent. Moi, tous les jours, je travaille.
Combien d'heures vous travaillez par jour?
Alors, je commence à 9h, de 9h jusqu'à 3h du matin.
Ah ouais, quand même.
Malheureusement ou heureusement, maintenant j'ai une copine. J'ai réussi à trouver une portugaise chinoise.
Ah putain, on la remercie pas, la portugaise chinoise. Elle fait baisser la productivité de winner, bordel. C'est pour ça qu'on a pris Ferrand à l'Assemblée. Ça, c'est un winner, Ferrand, ok? Un abus de bien social le matin, une loi sur la moralisation de la vie publique l'après-midi. Bam, ça c'est du boulot, ok? Allons voir un autre commercial. Winner ou pas?
On est obligé.
Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes un winner?
C'est l'aura, ça se dégage, c'est son là, son n'a pas.
Et comment vous la travaillez, cette aura?
Tous les matins, c'est du lion en barre, ça.
Comment vous vivez votre position de winner au jour le jour?
Oh, faut être modeste.
Ben voilà, on est des winners modestes. On a l'aura, mais pas comme Flessel. Bam, blague de winner. Vous n'êtes pas prêts, vous êtes des putains de losers.
Je suis prête,
vous n'êtes pas prêts pour la win, vous êtes comme Flessel la nulle qui démissionne comme une nulle. Vous feriez mieux de prendre des exemples sur les commerciaux.
Ben, moi, je vous dis, on est comme des médecins, entre guillemets. Ça veut dire que les gens viennent avec des problèmes, avec des interrogations, des mauvaises expériences.
Mais au final, c'est de la vente. Quand même.
Ah, c'est de la vente, le but évidemment c'est de vendre.
Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie là-dedans?
Ah bah non.
C'est pas le fait de faire semblant de s'intéresser aux gens pour leur vendre quelque chose.
Faut s'intéresser aux gens. Regardez, je m'intéresse à vous.
Ah putain, il est fort. Ah putain, l'enfoiré. Je suis reparti avec 3 crédits et 15 promesses de vente. Putain, il pourrait faire ministre de l'écologie tellement il est balèze. Ça coûte cher la win attitude, mais j'aime ça. Mais j'ai trouvé encore meilleur.
Moi je donne du bonheur aux clients. Je leur amène le produit qu'ils veulent.
Vous vendez du bonheur quoi.
Voilà, tout à fait. Et moi tous les jours, voilà, je suis l'abbé Pierre. Tout à fait.
Un commercial peut être l'abbé Pierre, c'est possible ça?
Bien sûr, bien sûr. Il suffit d'étudier ce que le client veut et d'arriver au Graal et tout va bien.
Putain, les mecs cherchent le Graal, mais c'est d'une beauté! C'est l'abbé Pierre à la table ronde, j'adore ça! C'est un mélange de Perceval et de Mère Teresa, putain, c'est beau, c'est ça qu'on veut! Et quand le client y a pas besoin, ce qui est beau, ce qui est encore meilleur, c'est qu'on le crée le besoin.
Savoir le créer le besoin, oui, il faut donner l'envie au client d'acheter.
Mais peut-être qu'à la base, il a pas besoin de ce que vous lui vendez.
Il aura toujours besoin.
Vous pensez?
On est dans un monde aujourd'hui, de nos jours, par exemple, je vous donne un exemple, iPhone, ils sortent des iPhones tous les ans. J'en ai pas besoin de tous les ans. Mais c'est important de changer. On est dans un monde où qui évolue sans arrêt.
Est-ce que c'est pas ça qui pourrit l'environnement?
Ah, il y a des questions environnementales très importantes, vous êtes très fort.
Eh ben oui, évidemment que je suis fort, putain, j'ai la win attitude. Mais attention à pas devenir comme un Nicolino, là, le bouffeur de coquelicots. Lui, il voudrait tous nous foutre sur des bicyclettes, c'est le lobby des Vélib. Attention, je le vois venir. Hidalgo démission! Pardon. Alors que les meilleurs commerciaux, on le sait Fabrice, c'est ceux qui vendent les bagnoles.
C'est un bon business parce que justement, ils font des voitures électriques. Et pour l'environnement, voilà, c'est super important.
Ils font encore un peu de diesel, non?
Un peu de diesel, mais bon, c'est important le diesel, faut le garder un petit peu.
Ah bon?
Ouais, faut le garder.
Pourquoi?
Oh, ça consomme pas.
Mais bien sûr! Et puis ça crée des emplois de médecins, c'est ça qui est chouette, qui eux-mêmes peuvent acheter des 4x4 diesel. C'est le cercle vertueux de la chimio, ok? Alors, puisqu'on parle de bagnole, Edwin, je suis passé devant le stand Toyota. Et là, je vous dis, j'étais un peu choqué, j'ai vu 5 mecs en costard cravate affalés les uns sur les autres. C'est pas des conneries. Je me suis dit, tiens, ça me rappelle Partouze au CAC 40, hein, le fameux film coproduit par Jackie et Medef. Mais non, c'était mieux que ça, c'était une technique de win que je connaissais pas et que le manager de Toyota m'a expliqué.
C'est un exercice de cohésion d'équipe. En fait, ils sont en équilibre sur les genoux du partenaire par 4. Donc l'idée après, c'est de réussir à faire un demi-tour.
Ça aide à vendre des bagnoles.
Ça aide à vendre des bagnoles.
Bah, évidemment, c'est ça, c'est l'esprit, c'est la win. La vente, la consommation. On fonce tout droit, tête baissée, dans l'impasse.
Merci, mon petit gars. C'était magnifique, c'était beau ce que t'as fait. Vous écoutez BFM Business. Ne zappez pas, 17h42. Fabrice Nicolino avec nous. Et je vais laisser le deuxième sujet à Clara Dupont-Mono.
Ah bah, la win. En parlant de win, le Secours Populaire publie sa 12e enquête sur la pauvreté. Et elle montre que le slogan « manger 5 fruits et légumes par jour » ne s'applique pas à tout le monde. 53% des gens qui gagnent moins de 1200 euros par mois se passent de fruits et légumes quotidiens. Ah ouais, mais la frugalité, c'est un art.
Oh, mais ça commence à sentir drôlement bon chez vous.
Un petit civet. Et vous?
Oh, moi, vous savez, rien de spécial. À déjeuner, je fais attention, une lichette de terrine, un ou deux petits chèvres, un sorbet avec de la confiture. Quand j'exagère, après je ballonne.
De Calmos de Bertrand Blier. Alors, le Secours Populaire insiste sur le fait que l'assiette est devenue un marqueur social. Fabrice Nicolino. Du coup, est-ce qu'on peut pas rêver d'un liberté, égalité, cuillerée? C'est-à-dire que, est-ce que la révolution, elle passerait pas aussi par l'assiette?
Ah, sûrement qu'elle passe par l'assiette, c'est évident. Mais si vous voulez, c'est une question complexe. Ce qui est sûr, c'est que, comme pour les pesticides, je m'excuse d'y revenir, l'agroalimentaire, l'alimentation est entre les mains de l'industrie. Tout le monde sait, ou tout le monde devrait savoir, que l'industrie ajoute à tout ce qui est consommé du sel, du sucre, du gras, pour gagner davantage d'argent, que ça rend tout le monde malade. Tout le monde le sait très bien. Si vous voulez, la question est à la fois bien et mal posée. Bien sûr qu'il y a des pauvres qui ont du mal à manger. Mais manger quoi ? Manger de la merde, faut dire les choses nettement. Il faut sortir aussi de ce système-là. C'est assez simple en vérité. Je veux dire, si une volonté politique existe, et bien sûr elle n'existe pas, si une volonté politique existait, on pourrait avoir un débat national réel, authentique sur l'alimentation, sur le droit à l'alimentation dans un pays comme la France. C'est complètement invraisemblable que des gens mangent si mal, se nourrissent si mal, que leurs enfants deviennent obèses ou diabétiques ou asthmatiques, parce que c'est lié aussi à l'alimentation, c'est évidemment incroyable quand on réfléchit
comme ça. Mais alors, du coup, à un moment, les restaurants du cœur avaient proposé de redistribuer la viande de cheval, qui était abusivement qualifiée de viande de bœuf, et ils avaient dit, on va pas la jeter, on peut la donner aux populations démunies. Vous y étiez opposé. Pourquoi ?
Je m'y étais opposé, je ne m'en souviens pas, mais oui, je peux vous dire que je ne suis pas d'accord avec ça. D'abord, il y a le problème de la viande qui est un débat en soi. Est-ce qu'il faut manger tant de viande ? Est-ce que véritablement on en avait besoin ? Non, on n'en avait pas besoin. Guillaume Meurice a blagué là-dessus sur la fabrication de besoins. Il est clair qu'on a fabriqué le besoin de viande en France et qu'on a assisté à une surproduction, une surconsommation délirante qui rend malade les gens. Donc, j'étais contre ça. Et puis, par ailleurs, de la viande de cheval, mais qui vient d'où ? Dans quelles conditions ? Mais on a assisté avec le scandale de la viande de cheval
dans les lasagnes
vendues comme de la viande de bœuf, on a assisté à une concrétisation, à un exemple de la mondialisation de l'alimentation avec une viande qui venait de Hongrie, de je ne sais où, de Pétaouchnok.
Mais ce que vous dites du coup, c'est qu'il vaut mieux pas de viande du tout que de la viande low cost, c'est ça en fait?
Moi, personnellement, je mange de la viande, fort peu, mais j'en mange. Donc, je respecte les végétariens. Je suis un peu plus sceptique, même nettement plus sceptique en ce qui concerne les véganes. Mais en tout cas, la viande, ça doit être une discussion simple, de bonne aloi, entre gens de bonne foi. On en est extraordinairement loin. De toute façon, je vais vous dire une chose que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens savent. La consommation de viande en France, dans les pays occidentaux, qui se répand à la vitesse du feu dans des pays comme la Chine ou l'Inde, ça nous projette dans un avenir terrible, parce qu'il n'y aura jamais assez de surface agricole pour nourrir le bétail qui pourrait nourrir le monde. On va assister à une concurrence épouvantable entre ceux qui ont assez de fric pour se nourrir de viande, les pays occidentaux, les riches de Chine et d'Inde et de quelques autres pays, et puis tous les autres qui n'auront pas assez à manger. Est-ce que vous savez qu'en Europe, il y a entre 60 et 70% des surfaces agricoles qui sont affectées au bétail, soit sous la forme de pâturage, soit sous la forme d'alimentation, sous forme de maïs, fourrage par exemple. Donc si vous voulez, on est dans un délire total. On nous dit par exemple, on ne peut pas nourrir le monde, mais bien sûr qu'on peut nourrir le monde. Seulement, il faut modifier clairement le régime alimentaire. Et le comble de tout, c'est qu'un régime alimentaire différent serait infiniment meilleur pour la santé de tous. Donc on voit bien, les solutions sont à portée de main. Elles sont à portée de main. On ne fait rien.
Et du coup, dans deux jours, le gouvernement présente son plan anti-pauvreté. Vous n'en attendez rien?
Mais écoutez,
Ne me l'énervez pas.
Je me souviens d'un reportage que j'ai fait il y a 30 ans sur la télé.
Allez-y,
on a vu Macron aller à Noisy-le-Grand faire le zozo. Excusez-moi, c'est un peu honteux, quoi. Moi, je me souviens, je suis allé avec des volontaires d'AT, je m'en souviens comme si c'était hier, mais c'était il y a 30 ans. Régulièrement, tous les présidents sont obligés, c'est une figure de style qui est obligée. On va faire le zozo dans la télé pour dire qu'on s'occupe des pauvres et qu'on les considère comme des gens tout à fait remarquables auxquels il faut faire attention. Ça passera.
On trempe l'orteil dans la piscine, on fait oulala, elle est froide.
Trois jours, vous croyez qu'on parlera encore de la ville de Macron à Noisy-le-Grand? Non. Mm-hmm. Et les pauvres sont toujours pauvres? Oui.
Fabrice Nicolino avec nous. Tiens, petite question subsidiaire d'ailleurs, vous lancez un appel contre les pesticides. Est-ce qu'il y a un endroit de la planète où on échappe aux pesticides?
Non, je ne crois
aucun.
Pas. Aucun.
Même pas Andorre, Monaco, pas. Le Liechtenstein.
Bonne soirée alors.
Non, parce que ceux qui comprennent que les pesticides qu'on dépend, ils sont très souvent repris. On dépend ça sur un sol. Bah oui. C'est souvent repris par les nuages, poussé par le vent. Ça circule. On est à Paris, on est à Paris dans un studio Radio France. Vous sortez dehors, il pleut. Là, il pleut pas, d'accord. Mais il pleut, vous allez avoir des molécules pesticides dans l'eau de pluie. C'est attesté par de nombreuses études de l'Institut National de la Recherche Agronomique.
Des pesticides,
il y en a dans l'eau de pluie. Il y en a dans l'eau de pluie.
Ouais. Fabrice Nicolino, on va aborder ce... Ah ben non, on va pas aborder ce dernier thème.
On va aborder Constance.
On va surtout Constance qu'on attend.
À l'abordage. Oui,
abordez-moi. Allez-y, Constounette.
J'ai beaucoup hésité avant de choisir le thème de cette nouvelle chronique. Car depuis mon attentat à ma mère du 28 août, j'ai reçu énormément de messages de haine et j'espère apaiser en partie la colère de mes détracteurs en leur affirmant que désormais, pour éviter toutes sortes de conflits, je prends ma douche habillée. D'un autre côté, j'ai aussi reçu beaucoup de messages de soutien et d'amour et je ne voudrais pas non plus décevoir cette partie du public qui se régale de mes gougouttes d'eau qui font déborder le vase. Alors, pour contenter tout le monde, j'ai décidé de traiter deux journées mondiales à la fois. La première sera politiquement correcte et la seconde sera plus corrosive. Si malgré ces deux choix, vous n'appréciez toujours pas mon travail, je vous rappelle qu'à tout moment, vous avez la possibilité d'arrêter de m'écouter ou de me regarder. Vous voyez, moi par exemple, j'aime pas les poires. Bon bah j'en mange pas, voilà. Et quand j'en croise dans un supermarché ou dans un verger, je passe mon chemin. Je ne leur dis pas que c'est des grosses putes de salopes de chiennes de poires et je voudrais qu'elles crèvent toutes ces putes de poires. Non, je passe mon chemin. C'est un peu comme les gens, tu vois, qui tabassent les PD. Il faudrait qu'on leur explique qu'ils sont pas obligés d'être sur la défensive tout le temps comme ça. Personne ne les force à sucer des bites. Ils peuvent passer leur chemin. Allez, première partie. Jeudi prochain, le 13 septembre, nous fêterons la journée mondiale de la cacahuète. Voilà. Les cacahuètes sont des fruits à coque cultivés dans des régions tropicales. Et quand je parle des fruits à coque, je ne parle pas du mari de la poule. À ce propos, savez-vous... Oui, non, là, c'est politiquement correct. À ce propos, savez-vous... On se fait chier. Hein. À ce propos, savez-vous comment s'appelle la femme avec une cacahuète dans les fesses? La femme arachide.
Okay.
Voilà, okay. J'espère sincèrement ne pas m'attirer les foudres des gens allergiques aux arachides. Et si c'était le cas, je m'en excuse. Allez, bim, deuxième partie. Voilà. Samedi 8 septembre, c'était la journée mondiale internationale de l'alphabétisation. Aujourd'hui, le monde compte environ 4 milliards d'alphabètes, ce qui est une information réjouissante, puisque tous les ans, l'alphabétisation progresse de manière positive. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, parce qu'il y a encore du boulot. Car une personne sur sept est illettrée dans le monde. Sur 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les femmes sont bêtes. Bête. La plus bête de toutes étant la femme qui vit dans les pays en voie de développement, qui se fiche totalement d'avoir une bonne note en dictée et qui préfère marcher des kilomètres tous les jours sans chaussures pour aller chercher de l'eau potable et qui préfère avoir 1000 gosses et choper le sida. Mais quelle connasse! En plus d'être une connasse inférieure à l'homme, la femme est sale. Tous les 28 jours, elle saigne comme une truie alors qu'elle ne sait ni couper ni cogner la chatte. Tout ça pour se faire remarquer. Et j'ai mal au ventre, et ma pilule, elle me donne le cancer, et la neige, elle est trop molle, et gna gna gna. Et en plus d'être conne et sale, la femme est obsédée par l'argent et la bite. Et oui, à votre avis, pourquoi la plupart des putes sont des femmes? Mais parce qu'elles adorent se faire ramoner dans des camionnettes sur les bords de chemin pour 20 euros, ces salopes.
Alors, il faut pas vous étonner, les femmes, de vous prendre des grandes beignes dans la gueule. Vous êtes une bande de connasses. Et si en Chine, eh ben, il les noie dans des water, eh ben, c'est peut-être parce que c'est toutes des putes! Voilà. Je pense que globalement, tout le monde en a eu pour son pognon. Bisous.
Merci, Constance. Retour fracassant de Constounette, 17h52, sur France Inter. Fabrice Nicolino est content d'être venu.
Oh oui.
Fabrice, on va aborder ce dernier thème avec vous, avec toute l'équipe et vous, chez vous, les auditeurs. La sylvothérapie consiste à serrer un arbre dans ses bras pour sentir l'énergie qu'il dégage. Une énergie qui soigne le corps et l'esprit. C'est très répandu au Japon, paraît-il, sous le nom de bain de forêt. Et ce loisir est désormais pratiqué en France, pas plus tard que ce soir, là, près d'Orléans. Avis aux amateurs dans la région.
Qu'est-ce que tu fais, Denis ?
J'entoure l'arbre.
Mais pourquoi t'entoures l'arbre, hein ?
J'absorbe son flux positif et je me décharge de mon négatif.
C'est quoi ce stage, Denis ? T'es sûr que c'est agréé par le Pôle emploi ?
Ben oui, pourquoi ?
Ben je sais pas, ça fait un peu secte, non ?
Pourquoi ? Tu crois pas aux énergies ?
Si. Tu vas pas le faire en bas, Minou ? Avec les racines, ça doit marcher aussi, non ?
C'est pas les mêmes énergies en bas.
Isabelle Gélinas, Bruno Salomon dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. Je pense que c'est la Nouvelle République du Centre qui nous informe, en tout cas la presse régionale et du côté d'Orléans. Il y a une marche qui a lieu ce soir pour se balader, puis serrer les arbres, faire de la sylvothérapie. Fabrice Nicolino, est-ce que vous avez déjà essayé ?
Oui.
Ah oui ?
Oui, carrément. Mais non, mais
Qu'est-ce qui vous a conduit ?
C'est pas, moi, je fais pas de la sylvothérapie, je connaissais même pas l'existence du mot. Mais oui, j'aime beaucoup, moi, toucher les arbres. Ouais.
Mais est-ce que l'arbre est consentant ?
Écoutez, vous pourrez lui demander. Je peux vous donner l'adresse. Vous pourrez me voir en direct le faire. Je fais ça, je pratique sur un chêne, un gros chêne qui doit avoir 200 ans d'âge.
Et qu'est-ce que vous ressentez alors à ce
moment-là ? Non, alors je ne vais pas vous mentir et vous dire que je ressens des choses fantastiques, mais j'aime bien le faire. C'est une forme, ça vous paraît peut-être cucu, mais c'est une forme d'hommage à un arbre qui compte pour moi, qui est dans mon paysage quotidien. Il est dans mon paysage quotidien et cet arbre compte. Moi, je me souviens d'un vieux mec qui s'appelait Jacques Brosse, qui est mort, hélas, qui est un type formidable, qui était un maître zen et qui m'avait montré ça dans son jardin et ça m'avait profondément touché. Je pense que c'est ça qui m'inspire aujourd'hui. Entendons-nous bien.
C'est le geste aussi de le faire.
Ouais, je suis pas en train de vous dire que ça provoque des choses en moi parce que c'est pas vrai. Mais enfin, je veux aussi vous dire une chose que tout le monde doit savoir, c'est qu'on découvre chaque mois pratiquement de nouvelles choses sur les arbres, sur la façon dont ils communiquent entre eux. On est très très loin de l'idée qu'on se faisait jadis des arbres, une collection d'individus. Non, c'est beaucoup plus que ça. Les arbres, c'est aussi une communauté avec des formes de communication qui nous échappent en grande partie. Mais bon, moi, je prends ça relativement au sérieux, même si j'en suis pas au stade de penser que ça m'aide à vivre, en tout cas.
En tout cas, ce soir, près d'Orléans, il va y avoir foule grâce à Fabrice Nicolino qui vous encourage à y aller pour essayer. Tiens.
Carrément.
Clara Dupont-Mono, Guillaume Meurice, nous avons un sketch à proposer à notre invité.
C'est la tradition de la fin d'émission, on donne un sketch à l'invité.
Super,
qui
vous allez aimer
le
thème. Formidable.
Et on vous a donné évidemment le meilleur rôle, Emmanuel Macron, on en a parlé tout à l'heure.
Attendez, c'est où là ?
Comme vous nous aviez demandé, hein. Comme vous nous aviez demandé Macron, on a
rêviez d'interpréter Emmanuel Macron.
Ah, d'accord.
C'est ça, ces volumes qui sont surlignés. On l'a dit tout à l'heure, il a été visité les quartiers populaires. On va le suivre puisque Frédéric Lopez a arrêté son émission Rendez-vous en terrain inconnu. Je jouerai donc le rôle de Frédéric Lopez. Et voilà, nous y sommes, Manu.
Bon, déjà, tu m'appelles Monsieur le Président.
Ok, alors pardon, Monsieur le Président. Alors, à ton avis, on est où ?
Ben, je sais pas, c'est gris, il y a du béton partout. On se croirait chez les communistes. Tu m'as emmené où, là ? En Moldavie ?
Non, Emmanuel, nous sommes en Seine-Saint-Denis.
Ah ouais, je connaissais pas ce pays. C'est dans l'espace Schengen ? Faut des vaccins ?
Non, t'en fais pas. Ça va bien se passer. On va rendre visite à l'association ATD Quart-Monde à Noisy-le-Sec.
Bonjour, monsieur Macron. Bienvenue à Noisy.
Voici la présidente d'ATD Quart-Monde.
Ah, mais il parle français. Bonjour, madame. Je suis très honoré d'être ici à Noisy-le-Sec.
Noisy-le-Sec, hein, Emmanuel, pas Moisy. Allez, viens, on va rencontrer les pauvres. Tu es déjà rentré dans un bar PMU.
Un quoi ?
Eh bien, bienvenue au Balto, Emmanuel. Alors ici, on a des pauvres de la tribu des chômeurs de longue durée dans leur costume traditionnel.
Ah bah, ils peuvent pas se payer un costard ?
Non, non, non. Et comme tu vois, ils pratiquent une méthode de divination ancestrale à base de numérologie.
Enfin, ils jouent au tiercé.
Ouais, c'est ça. Allez, on part directement pour la cité du Londo.
De la lumière à l'ombre, on est en bâton hall. Un équipage...
Voilà. Alors regarde, Emmanuel, ici, ce sont des pauvres de la tribu, des jeunes de banlieue.
Mais qu'est-ce que... Excuse-moi, qu'est-ce qu'ils font de leur journée ? Ils ont pas envie de devenir milliardaires ?
Oh, bah, ils font plein de choses. Chauffeur Uber, agent de sécurité...
Mais j'en connais même un qui est devenu chargé de mission auprès de la présidence de la République. C'était quoi son nom déjà ? Ben Ali, quelque chose comme ça ?
Ben Ali, j'ai jamais entendu parler. Il y a pas comme une drôle d'odeur ?
Oui, effectivement, car il fume le trois feuilles de la paix, Emmanuel. C'est une sorte de rituel. Et là, regarde celui-ci, il fait cuire au feu de bois le gibier qu'il a ramené de la chasse.
Non, ça c'est le kebab du coin, Frédéric.
Ah, effectivement. Et pour ce soir, je t'ai préparé une surprise, Emmanuel. On va passer la nuit dans un logement social chez une mère célibataire. C'est au 15e étage et l'ascenseur est en panne depuis 6 mois. Tu trouves pas que le coucher de soleil sur les HLM, c'est magnifique, Emmanuel ? Allez, bonne nuit.
Le lendemain.
Alors, bien dormi ? Hein ? Tu trouves pas que le lever de soleil sur les HLM est magnifique, Emmanuel ?
Entre le bébé, l'humidité, le froid et les cafards, franchement, moyen.
Allez, fais tes valises, il est temps de rentrer à Paris. On rentre à Paris.
Ouf.
Merci Fabrice Nicolino, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et merci pour toutes vos explications passionnantes. Je vous conseille vivement cet ouvrage, Nous voulons des coquelicots, que vous publiez avec François Veillerette aux éditions Les Liens qui Libèrent. Il y a l'appel qui va avec, nousvoulonsdescoquelicots.org. Il y a le coquelicot à arborer en badge ou en pins et l'appel demain dans Charlie Hebdo. Et puis votre blog qui revient bientôt dès que le piratage est terminé, Planète sans visa. Merci infiniment Fabrice, merci beaucoup à Clara Dupont-Monod, merci à Constance, merci. Hippolyte Gérardot et Guillaume Meurice. Voici le mot de la fin qu'on laisse à l'homme qui a arrêté l'assaillant au couteau près du canal de l'Ourcq.
Quand je l'ai vu, moi j'ai pris mes boules directement, j'ai couru vers lui.